are powerful.
We run this mother.
La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Femmes puissantes, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes. Mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et pourtant, le moment est venu pour les femmes d'assumer enfin. Femmes puissantes, saison 2, 4 nouveaux numéros, avec une colonelle de gendarmerie, la Beyoncé française, une maître du monde économique. Et ce dimanche, c'est une reine de Paris qui est notre invitée. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Bonjour Anne Hidalgo.
Bienvenue Léa Salamé.
Merci de nous accueillir, pas chez vous.
Non, c'est chez les Parisiens. Là.
Chez les Parisiens, dans ce magnifique hôtel de ville.
Vous êtes déjà rentrée dans
Je ne suis jamais venue dans le bureau du maire.
Faites un vœu, parce qu'il est vraiment beau quand même, ce bureau.
On m'a dit que c'était le plus beau bureau de Paris,
ouais,
c'est vrai.
Non,
plus beau que celui du président de la République.
Et même, vous savez, il y a des officiers de sécurité, de chefs d'État étrangers qui m'ont dit, en fait, c'est le plus beau tout court.
Alors, pour ceux qui ne le voient pas, on va le décrire. Il fait quoi
150 mètres carrés.
10 mètres de hauteur sous plafond.
Oui.
On a vraiment la vue sur la Seine.
Oui.
Immensément lumineux, immense tout court.
Immense tout court.
Donc vous n'avez pas du tout envie de le quitter en fait.
Non, c'est très beau. Et puis c'est plein d'histoire surtout. Hein. C'est chargé d'histoire.
Elle est adorée par la moitié des Parisiens qui voient en elle la visionnaire de la ville de demain. Et elle ulcère l'autre moitié qui conspue l'icône de l'urbanisme politiquement correct et la reine des bouchons. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle ne laisse personne indifférent. Longtemps numéro 2, dans l'ombre de Bertrand Delanoë et de Martine Aubry, elle fait aujourd'hui de l'écologie avec Arnold Schwarzenegger et Leonardo DiCaprio, et elle est la seule Française à figurer cette année dans le top 100 du magazine Time des personnalités les plus influentes du monde. Même Emmanuel Macron n'y est pas cette année. C'est une femme sereine et assurée qui nous a reçus. Elle sourit des rumeurs qui la disent candidate en 2022, mais ce sourire cache-t-il une ambition de faire ? On a essayé de cerner la très secrète Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, à quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie puissante ?
Je sais pas si je me sens vraiment puissante. En tout cas, c'est pas une question qui me travaille ou qui me taraude. J'ai toujours voulu être libre, c'est-à-dire choisir ma vie. Est-ce que c'est ça, être puissante, peut-être ? Auquel cas, depuis que je suis toute petite, je veux choisir ma vie. Alors, même si j'étais assez timide, j'ai toujours eu le sentiment que, voilà, je voulais pas qu'on me mette dans une étiquette, dans une case. J'avais envie de faire la vie que je rêvais d'avoir, et j'avais plein de rêves de cette vie-là. Alors après, quand on parle de femmes puissantes, ce qui me vient à l'idée, ce sont quand même les portraits de Marine Diaye. Moi, j'aime bien la puissance au sens de la force intérieure qui fait qu'on va quand même chercher dans son histoire, dans ses racines et dans ses rencontres, quelque chose qui vous permet quand même de vous dépasser en permanence.
Évidemment, Marine Diaye, je m'en suis inspirée pour ce titre-là. Mais à chaque fois que j'ai posé cette question à toutes les femmes que j'ai interviewées dans cette série Femmes puissantes, toutes ont eu du mal à accepter l'idée de puissance. Comme si, encore en 2020, dire « je suis une femme puissante », c'était bizarre. Comme si c'était quelque chose de réservé aux hommes. C'est assez étonnant, il y en a une seule. Une seule de toutes les femmes qui a dit « oui, je suis une femme puissante », c'est elle.
Nathalie Kosciusko-Morizet, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi ?
Oui, comme vous. Comme toutes celles qui nous écoutent, si elles veulent bien. Peut-être qu'il y a une ambiguïté, une confusion entre ce que c'est qu'être une femme de pouvoir ou une personne de pouvoir et une femme puissante. Pour moi, être une personne de pouvoir, c'est une question de position, en fait. C'est on a du pouvoir sur les choses, on a du pouvoir sur les autres. Être une personne puissante, c'est presque intime. C'est être dans son axe, en quelque sorte, c'est avoir trouvé son équilibre.
C'était Nathalie Kosciusko-Morizet, votre rivale malheureuse à la mairie de Paris en 2014.
Je suis d'accord avec elle, vraiment. Je pense que le mot puissance est un mot que les femmes manient avec prudence, parce que c'est un mot d'abord qui vient d'un langage, de code masculin. C'est vrai que moi, la puissance au sens de affirmer un pouvoir, affirmer une position, décider seul contre tous, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. En revanche, le fait de pouvoir accéder à des responsabilités pour faire bouger des choses et y mettre la part de soi, je suis d'accord avec Nathalie Kosciusko-Morizet quand elle dit il y a quelque chose de l'ordre de l'intime. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime.
Alors aujourd'hui, vous vous sentez dans votre axe, pour reprendre les termes de Nathalie Kosciusko-Morizet, vous vous sentez plus puissante qu'il y a quelques années, plus sûre de vous?
Oui, je me suis pendant très très longtemps posé des tas de questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Même, vous savez... plus tard, quand j'ai été élue en 2001, mes 5 premières années de mandat d'élue, tous les jours, mais vraiment tous les jours, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ? Parce que c'était quand même l'arrivée dans un monde où la bienveillance c'était pas au coin de la rue, hein, coin
du couloir. Vous dites tous les matins, entre 2001 et 2005, qu'est-ce que je fous là ?
Ouais. En tous les cas, est-ce que je reste ? Je savais ce que je faisais là, hein, puisque je l'avais décidé, je m'y étais engagée. Puis on n'arrive pas là sans engagement et sans désir d'y être. Parce que je voyais aussi beaucoup de femmes autour de moi qui se posaient exactement les mêmes questions dans l'univers politique. Et je me suis dit à un moment donné, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Nous, les filles, là, on est là, on arrive presque par effraction, on nous tolère, on fait joli dans la galerie et on a énormément de problèmes pour pouvoir être crédible et réaliser ce qu'on a à faire. Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'être pour m'accomplir ? Lire, être heureuse, faire des choses qui me correspondent. Et j'ai tranché cette question, mais ça m'a pris un petit peu de temps. Et je me suis dit, non, je vais y aller.
Le ZAP, tout de suite.
En tant que première adjointe au maire de Paris, je représente le maire là où il ne se trouve pas physiquement.
Quand elle assure l'intérim de la mairie, pendant la convalescence de Delannoy, certains ont des doutes. Une fois de plus, elle encaisse les procès en illégitimité, sans broncher.
Elle a choisi d'être l'héritière. Moi, je ne veux pas héritier de Paris, je veux mériter Paris.
Héritière ? Mais devrais-je avoir honte de ce que nous avons fait pour Paris ? Je le revendique.
Mais cette image que vous avez, est-ce qu'elle vous joue pas un peu des tours quand même parfois ?
Mais non, moi je m'en fous. Alors
vous en foutez.
Je vais vous dire, mais je m'en fous à un point.
Est-ce que vous auriez fait de la politique sans la loi sur la parité ?
Oui.
Le PS avait besoin de femmes, hop, vous êtes apparu.
Le PS avait besoin de femmes. La vie démocratique française avait besoin de femmes.
J'ai donc l'immense bonheur de proclamer Anne Hidalgo maire de Paris.
Et s'il n'y avait plus de voitures dans le centre-ville de Paris ? C'est du moins ce qu'envisage Anne Hidalgo, la maire de la capitale.
Je pense qu'Anne Hidalgo a eu un problème quand elle était petite avec les petites voitures. C'est pas possible autrement.
Les derniers mois de son mandat ont été émaillés de polémiques. Anne Hidalgo, une personnalité qui divise les Parisiens.
Alors vive les Parisiennes, vive les Parisiens et vive Paris et merci !
Anne Hidalgo a dit pendant toute sa campagne des municipales qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle et là, elle ne le dit plus.
C'est pas le moment.
Mais c'est pas impossible.
En tous les cas, je prendrai ma part.
Et si la grande force d'Anne Hidalgo était d'être celle dont on ne se méfie pas ?
Moi, je m'en méfie parce que je la connais.
Bah attendez, vous allez m'entendre.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Anne Hidalgo, à chaque femme, je demande un objet qui incarnerait la puissance pour elle. Vous avez choisi quoi ? Ça vous fait déjà marrer.
Ouais, ça me fait marrer parce que... Alors, c'est un cendrier.
Un cendrier parce que vous fumez ?
Pas du tout, je n'ai jamais fumé. En fait, ce cendrier, je l'ai fabriqué en 1982. À l'époque, j'étais stagiaire pour être inspectrice du travail. Ça, c'était le métier que j'avais choisi. Et j'avais obtenu de faire un stage ouvrier dans une usine de fabrication de bouteilles dans la Loire, à Vauche. Et au début, le chef du personnel, la direction de l'usine, ne voulait pas que j'aille dans les ateliers qui étaient réservés aux hommes. Ils avaient peur que ça se passe mal, puisqu'il y avait que des hommes. J'avais 22 ans, hein, donc je me suis battue, j'ai obtenu d'y aller. Et ça s'est super bien passé, parce qu'évidemment, il y avait de la fraternité. Et ils m'ont fait ce qu'ils font, ça s'appelle la perruque, c'est-à-dire ces petits moments qu'on vole sur, par exemple, un temps de production très contraint.
Et là,
c'est la goutte de verre en sortant du four, donc une goutte en fusion, je la revois en vous en parlant, qu'ils prennent et ils tordent les bords pour faire un cendrier. Et après, ils m'ont donné un gros marqueur. Et donc, avec le derrière du marqueur, moi, j'ai fait les petits dessins, les petits motifs de fleurs.
Ah, donc, c'est un mélange entre vous et le travail des ouvriers.
Voilà.
Pour
voilà.
Vous, c'était un cadeau pour vous. Vous le trouvez beau?
Donc, je le trouve beau par son histoire, quoi.
Ouais.
Si je le pose comme ça, on va me dire c'est quoi ce truc kitsch, mais
il est un peu kitsch, sauf mon respect.
Mais je le trouve
beau.
Mais
en tout cas, il est précieux à votre cœur.
Ouais,
c'est ça. C'est ce cendrier incarne la puissance des femmes parce que vous vous êtes battue pour rentrer dans le département des hommes et qu'ils vous ont offert ça. C'est
ils
ça
m'ont offert ça et ce qu'ils m'ont offert, c'est une petite part de créativité dans une chaîne de production très contrainte.
Je vais vous faire écouter cette archive. On est en 2003. Vous venez d'apparaître sur la scène politique. Vous êtes adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë. Écoutez les mots du journaliste quand il parle de vous, c'est sur France 3.
Pas facile à vivre d'être un symbole vivant. Caution féminine à l'hôtel de ville. Potiche, certainement pas. Postiche, peut-être. Bertrand Delanoë la met en avant quand il a besoin d'un sourire, pas forcément dans le coup de toutes les décisions. À l'écart, bien sûr que non, juste un tout petit peu à côté. Ce décalage, Anne Hidalgo savait qu'elle devrait le supporter. Mais certains jours, ça doit bouillir derrière la beauté sereine de ce visage de Madone andalouse.
Oui, il a bien raison. Hein, oui,
Bertrand Delanoë la met en avant quand il a besoin d'un sourire.
Bon, c'était plus compliqué que ça, mais en tous les cas, je me souviens de la discussion que j'avais eue avec lui juste avant l'élection, hein, où il m'avait dit si on gagne, voilà, j'aimerais. Moi, j'avais tout à apprendre. Hein, je savais pas du tout ce que c'était que d'être élu. Mais je lui avais dit, mais je te le dis, hein, je serais pas du tout un alibi. Ça.
Et vous l'avez été quand même.
Bah oui, peut-être, sûrement,
bah oui.
Mais je voyais bien ce petit monde politique et médiatique autour de moi. Je me souviens aussi d'un article dans Le Monde, c'est juste, mais le lendemain de mon élection, c'est-à-dire j'ai même pas commencé à prouver que je pouvais faire quelque chose.
Qui écrivait quoi ?
Qui écrivait que j'étais juste un alibi, quoi. Enfin aussi. Et donc
moi j'ai lu, elle n'est là que grâce à Bertrand Delanoë. Elle n'est pas au niveau. Jeune et jolie brune, politiquement inexistante.
Oui.
Madame
oui.
Nunuche.
Oui.
La cruche.
Oui, oui, bien sûr.
Tout ça.
Évidemment, il vaut mieux être lucide et savoir que c'est ce qui se dit. Bon, il y a deux attitudes. Pendant, c'est vrai, 4 ans, je me suis dit je reste ou pas et j'apprends quand même et je me donne le temps de savoir si c'est vraiment là que j'ai envie de faire des choses et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et puis, deuxièmement, je me suis dit très bien, moi, je pense qu'il faut apprendre. Cette ville, elle me passionne et je me suis dit je vais apprendre, la position que j'avais de première adjointe me permettait d'aller partout, mais alors vraiment partout. Donc je suis allée partout, en immersion, avec les policiers, avec les pompiers, avec...
Mais est-ce que c'est à cause de ces attaques où on vous a clairement sous-estimé il y a 20 ans, est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes blindée et que... Après les nunuches gentilles, trop gentilles, on a entendu, elle est clivante, cassante, autoritaire. Il fallait le devenir pour se faire respecter ?
Non, je pense que je suis pas du tout blindée. Parce que si on se blinde, on devient quelque chose qui est plus tout à fait humain, quoi. Et je pense que dans la fonction d'élu, de représentant de la population, c'est aussi à partir de nos fêlures, de nos fractures, de nos fragilités, que l'on comprend le monde, ses fragilités.
C'est faux de dire « elle est cassante, elle est autoritaire ».
Je pense que c'est faux et je pense que c'est d'ailleurs une construction très théorique, c'est-à-dire les femmes, dès lors qu'elles accèdent à des positions de pouvoir, donc qu'elles deviennent des femmes dites puissantes, on leur met ça comme caractéristique. J'ai pas mal discuté justement sororité avec d'autres femmes, soit en politique, soit dans le monde économique, et en fait, elles étaient exactement au même moment dans la même attaque. Toutes c'était elle est autoritaire, elle n'écoute pas. C'est-à-dire le fait d'exercer quand même le pouvoir, donc à un moment donné de trancher, parce que imaginez l'inverse, imaginez que jamais, jamais vous ne preniez de décision. Bah, on dira de vous, franchement, elle a rien compris, elle ne décide de rien. Forcément.
Est-ce que c'est pas un peu facile? L'argument utilisé souvent par les femmes à qui on fait des critiques d'être trop autoritaire ou sectaire ou cassante, elles répondent oui, mais vous diriez pas ça à un homme, vous le dites parce que je suis une femme. Est-ce que c'est pas un argument un peu facile de sortir la carte femme?
Je pense que c'est pas la carte femme, mais c'est juste partir des représentations. Oui, il y a une représentation construite et admise autour des femmes de pouvoir qui est de dire, eh bien, elles sont autoritaires et elles décident seules.
Il y en a une autre qui a beaucoup souffert de cette attaque-là quand elle était notamment candidate à l'élection présidentielle, c'est Ségolène Royal.
Je me suis aussi imposée à moi-même la loi du silence. J'ai encaissé. En disant, si jamais je me plains, on va dire, bah, voyez, elle se plaint, les femmes sont pas solides, voyez, elle manque d'humour, oh, bah, non, mais c'était pour rigoler qu'on disait ça. Voilà, c'est-à-dire qu'à une femme, on va mettre en cause, comme elles sont considérées comme des intruses, on va mettre en cause jusqu'à leur intelligence. Moi, combien de fois on m'a traité de folle? Elle est folle. Je disais quelque chose qui leur plaisait pas, j'étais folle.
C'est vrai, elle a entièrement raison. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc
ça n'a pas changé, ça.
À l'échelle municipale, par exemple, pour moi, oui, ça a changé beaucoup. Et puis dans le regard des citoyens, ça a beaucoup changé, hein, parce que eux, ils sont beaucoup plus en avance que le monde politique ou médiatique sur ces sujets-là.
Ségolène Royal, elle est folle. Vous, vous êtes autoritaire.
On m'a dit aussi que j'étais folle.
Ah, hein, vous étiez folle aussi.
Moi aussi, j'étais. Oui, oui, j'ai même lu entre les lignes que mes décisions étaient guidées par l'émotion.
Ça, on y revient toujours.
Toujours. Oui. C'est vrai qu'elle le dit, hein, il y a des moments où vous dites, bon, je serre les dents, je réponds pas, et on passe à autre chose. Je pense aussi qu'ignorer un certain nombre de conneries, ça aide à les dépasser.
Ça a atteint son maximum au moment de votre grande guerre contre les voitures, Anne Hidalgo, où vous aviez...
Pour la pollution,
oui,
en tout cas, abaisser la pollution.
Certes, je l'ai vu tous les jours dans les journaux,
oui,
où c'était, vous étiez insultée parce que les automobilistes faisaient des heures et des heures d'embouteillage alors qu'ils venaient parfois de banlieue et ils vous insultaient, parce que on avait l'impression que c'était des travaux en permanence pour faire les voies cyclables, etc. Et là, est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment, vous aviez fermé les quais, vous vous êtes pas dit à un moment, est-ce que je vais pas trop vite, qu'est-ce que je fais? La droite vous disait, prenez votre temps, c'est pas qu'on est contre vos positions, mais attendez. Est-ce que vous vous êtes pas dit à des moments, est-ce que je déconne? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je devrais écouter plus les autres?
Non, d'abord, c'était d'abord un sujet qui avait été tranché dans le débat des municipales de 2014, le fait que on accélère la lutte contre la pollution, et donc ça voulait dire diminuer la place de la voiture à Paris. Je sais bien que ça a été une épreuve du feu. Non, mes opposants de droite ne disaient pas il faudra le faire, mais plus lentement. Ils voulaient juste que ça ne puisse pas se faire. D'abord pour que je ne puisse pas dire à la fin de mon mandat on a réalisé ça et voilà les résultats qu'on a obtenus. Deuxièmement, certainement pour dire, vous voyez bien qu'elle est incapable d'agir, de décider, et que dès qu'il y a un peu de turbulence, les choses s'arrêtent. C'est très tactique, très politicien. Ensuite, il y avait à écouter les difficultés de celles et ceux dont on allait changer radicalement les habitudes. Ça, oui. Je me suis dit, comment on fait pour...
Vous les entendiez, les Français, pas politiciens, les Français qui disaient, on n'en peut plus.
Oui, d'ailleurs, même ceux qui n'habitaient pas du tout à Paris et qui avaient des embouteillages dans leur région à eux. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était devenu un sujet national.
Hidalgo d'émission.
Ouais, c'était Hidalgo d'émission. Mais là-dessus, j'avais dit à mes équipes, ça va être très, très dur. Mais en même temps, décider, mettre en œuvre une proposition qui a été votée 3 ans avant, qu'on a travaillé, sur laquelle il y a eu les concertations, toutes les étapes légales nécessaires, et la mettre en œuvre au bout de 3 ans, je n'appelle pas ça de la rapidité d'exécution, surtout vu le risque climatique et le risque que fait jouer la pollution. Non, en revanche, je me suis dit, bon, parce que cette idée de décider seule, enfin, c'est absolument pas la réalité. C'est-à-dire, moi, je suis très dans un mode collégial, j'écoute beaucoup, je réunis, j'associe. Et à partir de là, il y a un moment, oui, on donne le cap, ça c'est mon rôle. Je me suis dit, bon, ce que racontent les éditorialistes tous les matins...
qui vous tapez dessus tous les matins.
Tous les matins, mais alors vraiment tous les matins, je les laisse. Hein, d'abord, je vais pas aller alimenter ce machin-là, ça m'intéresse pas, c'est du bruit, rien que du bruit. Mais j'avais quand même le sentiment qu'il y avait deux mondes parallèles. Hein, le monde du réel et puis un monde quand même de cette haine, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même de la haine qui était véhiculée. Et j'ai tenu parce que j'avais beaucoup de témoignages plutôt d'affection et de gens qui me disaient ne lâchez rien, ne lâchez rien.
Est-ce que c'est là que vous avez écouté la chanson de France Gall, puisque c'est celle que vous avez choisie? Chaque femme doit choisir une chanson qui incarne les femmes puissantes. Vous avez choisi ça.
Résiste.
Pourquoi résiste France Gall?
J'adore, c'est vrai que cette chanson m'a accompagnée depuis longtemps, enfin depuis que la chanson existe d'ailleurs. J'aime bien cette idée-là de résister, de trouver son bonheur, d'aller, d'avancer. Après, je pense qu'il faut le faire sans blesser, hein, sans s'imposer non plus aux autres d'une façon trop radicale ou violente.
Cette chanson, elle vous a aidé en 2018. 2018, c'est peut-être l'anus horribilis pour vous. C'est vraiment là, ouais, où il y a la bronca contre votre politique anti-voiture, vos proches vous lâchent.
Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien.
Qui vous lâche?
Ah ben oui, parce qu'ils n'étaient pas vraiment proches.
Bruno Julia n'était pas vraiment proche.
Ben, vous savez, quand vous avez dans votre entourage des gens qui toute la journée passent leur temps, finalement, en fait, à essayer de vous faire chuter, le jour où ils s'en vont, votre vie change et pour quelque chose de mieux.
Vous avez eu quand même des trahisons, donc.
Oui, ça, j'ai connu les trahisons.
Tout le monde disait, elle sera jamais réélue.
Oui, c'est vrai.
Et à ce moment-là, vous tenez grâce à quoi?
La force intérieure, je la trouve dans mes amis, dans ma famille, dans mes enfants, dans ma propre réflexion.
Mais vous êtes fébrile à ce moment-là, en 2018? À aucun moment vous doutez?
Je suis, c'est très dur.
Vous pleurez?
Non, pas du tout. Ah non, je suis pas fébrile du tout. Je me dis, bon, il y a une situation qui est très compliquée. Il y a peu d'alliés. Donc, où sont les alliés? Comment on constitue justement
une équipe loyale.
Qui est loyale et qui partage les valeurs, les convictions, qui cherche pas à faire autre chose, qui n'a pas considéré que la bataille était perdue d'avance et qui a envie quand même de réaliser les choses pour lesquelles on a été élu.
En tout cas, il y en a un qui pense que pouvoir et femme ne vont pas ensemble, mais alors pas du tout ensemble.
Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Parce que je pense qu'il y a un lien, alors là on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir et la virilité. Les femmes sont les régentes, c'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça.
Oui, mais il faut le
elles
partager.
Elles n'expriment pas le pouvoir, elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent, le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir.
Parce qu'elles ont des valeurs masculines.
Voilà, exactement. C'est plus précis de le dire comme ça. Et quand le
féminin
domine...
Et les valeurs féminines, elles sont incompatibles avec
Elles sont incompatibles avec, oui, l'incarnation du pouvoir.
Éric Zemmour, sur BFM, face à Routel Krief.
Il faut respirer un grand coup quand on entend ça. Hein. Ah là là.
Les femmes sont incompatibles avec le pouvoir. Voilà ce que dit Éric Zemmour.
Je ne vais vraiment pas dialoguer avec ce personnage.
Non, mais il y a des gens qui pensent ça. Éric Zemmour, pas seulement pour le côté caricatural, parce qu'il y a plein de gens qui pensent ça.
Oui, mais ils sont de moins en moins nombreux. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, enfin je regarde les nouvelles générations, dans les rôles sociaux des femmes et des hommes, ils se rapprochent au point d'arriver à un moment donné à effacer les différences qui ont été celles qui ont servi effectivement à l'instauration du patriarcat depuis que l'humanité existe.
Donc, est-ce qu'il y a une manière féminine d'exercer le pouvoir qui serait différente de la manière masculine ou vous ne pensez pas ?
Je pense qu'il y a quand même une façon différente qui est liée justement à cette expérience de vie que nous avons. Je dis pas de la maternité, hein, mais cette nécessité d'avoir en permanence à justifier qu'on a un cerveau, que ce cerveau peut servir aussi à l'extérieur, pas simplement dans le foyer. C'est très très fort et c'est beaucoup plus fort que un petit mec tout seul dans son coin à s'exciter et à dire je suis viril, je suis un homme et les femmes n'ont pas de pouvoir.
Ça c'est Éric Zemmour.
Je commente même pas.
C'est pour ça, Anne Hidalgo, c'est à cause de ces attaques-là qu'il y a quand même, et malgré la loi sur la parité, si peu de femmes en politique. Alors certes, il y a une nouvelle vague des femmes maires qui a été élue la dernière fois, mais tout de même, au niveau national, celles qui émergent, on les compte sur les doigts d'une seule main. Absolument. Il y a vous, aujourd'hui, il y a Christiane Taubira à gauche, il y a Valérie Pécresse à droite, Marine Le Pen évidemment.
Bien sûr.
Au niveau de la Macronie, de toutes ces nouvelles personnalités, il y a qui vous
Non, j'en ai pas.
Peut-être Marlène Schiappa, qui existe.
Oui, mais...
Même pas. Sur les doigts d'une main.
Mais je suis d'accord avec vous.
De droite sur les doigts d'une main.
Je suis d'accord avec vous. C'est très très peu de femmes qui sont. Je pense que c'est oui l'âpreté de ce combat, le fait que quand même on prend beaucoup de coups, que on expose aussi sa famille, hein, qu'on expose ses enfants qui n'ont pas choisi de la vie qui est la vôtre. Donc ça fait réfléchir aussi beaucoup. Vivre avec des femmes qui sont dans une position de femme puissante, tous les hommes ne l'acceptent pas encore aujourd'hui. Hein, donc, par exemple, vous prenez les directeurs de cabinet, travailler avec une femme politique puissante, c'est pas tous les hommes qui aiment cet exercice-là.
À un ministre à qui je disais ça, comment ça se fait que vous ayez si peu de femmes en avant, mises en avant, etc. Il m'a répondu parce qu'elles sont nulles.
Non,
c'est pas un... Il m'a dit, on se triture la tête pour trouver des femmes, mais elles sont pas bonnes. Celles qu'on a ne sont pas bonnes. Elles sont pas au niveau. Elles savent pas bien s'exprimer. Elles savent pas bien communiquer. Voilà ce qu'on m'a répondu. Est-ce que c'est totalement faux?
C'est peut-être le thermomètre et le modèle aussi qu'il faut changer, hein. C'est-à-dire l'expression virile de la personne tellement sûre d'elle que ça va donner l'impression qu'elle écrase tout. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup.
Vous, ça vous intéresse pas, sauf que c'est plus efficace.
Pas forcément. Alors ça, pas forcément.
Quand vous avez une femme qui hésite, une femme ministre qui hésite, qui a du mal à s'exprimer, qui choisit ses mots, qui a peur... C'est pas très efficace pour le message politique, non ?
J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est peut-être plus efficace dans l'action que quelqu'un qui arrive avec de telles certitudes qui va tout écraser. Donc, et vous savez, moi, j'ai une expérience. J'étais jeune élue et je présidais tout ce qui avait trait à la lutte contre le cancer du sein. Et on devait choisir une directrice médecin. Et c'était un choix qu'on devait faire avec les médecins libéraux, les radiologues. Et on reçoit plein de CV. Et parmi les CV, il y avait une femme avec médecin, 5 enfants. J'étais la seule femme dans le jury, mais c'était moi qui présidais le jury. Et je vois la tête des hommes qui étaient là, mettant de côté le CV de la femme qui avait 5 enfants. Donc je leur dis, non, je reprends le CV, je dis, écoutez, je vous préviens. Si, quand on va la recevoir, vous lui demandez comment elle fait avec ses 5 enfants, d'abord, c'est une question que je vais poser à tous les autres, hein, d'accord ? Et deuxièmement, si elle a 5 enfants et la carrière qu'elle a, c'est qu'elle doit être sacrément organisée et brillante. Et ben, à la fin, à l'unanimité du jury, c'est elle qui l'a emportée. Donc, quel est le thermomètre que l'on met ? Est-ce que, moi je pense qu'il faut changer ce modèle de cette arrogance du pouvoir qui vous serait due et que vous exprimez avec une forme de brutalité. Et un des problèmes qu'on a, c'est vrai que la parole est quelque chose de très important. Moi, par exemple, l'exercice du discours dans un meeting, c'est vachement dur pour une femme, parce qu'il y a un truc, c'est vrai, un peu sexuel dans cet exercice qui consiste à prendre la salle. Bon, quand vous arrivez, que vous êtes une femme, que vous vous savez regarder, que vous êtes toute seule au milieu de la tribune, et que là, il va falloir tellement vous dépasser, porter une voix, pas forcément ni haut ni fort, mais qui touche, vous vous dites comment je fais. J'avais regardé un peu les modèles de discours féminins qui existaient.
Alors,
il y avait... Hillary Clinton était une super oratrice.
Wow, moyen.
Mais moi, dans son positionnement, je trouvais qu'elle avait quelque chose
qu'elle prenait la salle.
Qu'elle inscrivait quelque chose. L'autre personne qui, moi, m'inspirait, alors qui n'était pas du tout dans « Je prends la salle », c'est Michelle Bachelet.
La présidente du Chili. Comment elle prenait la salle, elle ?
Eh bien, elle la prenait avec... quelque chose de à la fois très doux, très méthodique, mais très déterminé.
Nous, les femmes, avons plus de pouvoir qu'avant, et nous pouvons encore améliorer les choses. Ainsi, d'ici quelques années, les changements dont nous avons besoin aujourd'hui et pour lesquels nous nous battons deviendront une réalité et une bataille gagnée. Je travaille chaque jour, comme vous, et je continuerai à travailler jusqu'au bout. Merci beaucoup et bonne journée de la femme.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Take it. Take it. Take it.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Take it.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume la cara, gafas no es. Tono dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestía de negro como Kika. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita.
Leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca. Esa mami.
She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet. I like that. I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. No, you got problems, but it's not fair.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien pueda confiar. Más te vale no romper la muerta.
Take it, take it, take it, take it, take it.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
C'était TKN de Rosalia et on est toujours dans le bureau d'Anne Hidalgo.
Il y a beaucoup de tableaux là, ouais. Je le dis pour les auditeurs et les auditrices. Il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur ?
J'aime beaucoup celui-ci, c'est le dernier qu'on a accroché, qui est un tableau de Aubé. The future is unwritten, c'est aussi ce que je pense, voilà.
Et le futur n'est pas écrit.
N'est pas écrit, qu'il faut l'écrire, quoi, et qu'il faut l'écrire en agissant. Et c'est Aubé, donc l'artiste qui avait fait l'affiche d'ailleurs de Obama.
Donc la première œuvre d'art que vous montrez, c'est pas un artiste made in France.
Oui, mais c'est pas, voilà.
On s'en fout.
Citoyenne du monde, hein. Non, j'aime bien les artistes français, d'ailleurs celui-ci en est un. Donc ça date de 87, c'est un Speedy Graffito, donc ça doit être un achat par la ville de Paris à l'époque où Jacques Chirac était maire. On blague un peu quand je reçois des oui. autorités religieuses et notamment des autorités catholiques parce que c'est écrit « Je suis en retard car ce matin j'étais à la messe
voilà. ». Ça vous arrive d'être en retard parce que vous êtes à la messe ?
Non,
jamais.
Non, je suis jamais en retard.
Il n'y a pas de photos de vos enfants à vous ?
Il y en a quelques-unes, mais voilà, ça c'est le plus petit quand il était vraiment plus petit.
Ça c'est Arthur, donc
Arthur, c'est ça. Un grand là, mais quand il était plus jeune, voilà. Mais sinon, non, je...
Votre fille, elle n'est pas là.
Ma fille n'est pas là, je l'adore. Je l'adore, mais elle n'est pas là. Voilà.
On va s'asseoir ?
Ouais, avec merci. Plaisir.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Anne Hidalgo. Beaucoup de femmes de pouvoir gomment leur féminité pour se faire respecter, pour être crédibles. Vous ne l'avez jamais fait.
Non, non, non. Ah non, ça, vraiment, je ne voulais pas. Je sais, hein, j'en avais parlé beaucoup, y compris avec Elisabeth Guigou, Martine Aubry. Le fait de prendre l'uniforme, ça m'arrive hein, de temps en temps.
Là, vous êtes un peu en uniforme.
Là, je suis un peu en uniforme, tailleur, pantalon. Bon, parce que j'ai décidé de m'habiller comme ça. Mais de me dire, si je veux mettre voilà, une tenue autre, une robe...
Une jupe, une mini-jupe. Ah oui, non, vous ça... avez porté des mini-jupes ah jusqu'à... Oui, oui, vous en portez sûr. Toujours
oui, oui.
Donc après 50 ans, on a le droit de porter des mini-jupes.
On a le droit. Si vous avez envie, vous le faites. Voilà, ça va, quoi.
Et pourtant, Anne Hidalgo, vous racontez que jeune... Les hommes plus âgés, dans les congrès internationaux, vous proposaient de les rejoindre dans leur chambre.
Ah oui, ça c'était incroyable. Je me souviens, oui, un congrès international, j'avais pas 30 ans. Et le soir, je rentre dans la chambre de l'hôtel. Et là, j'avais une pile de messages de ces messieurs. Mais alors,
plusieurs ?
Ah bah oui, une pile de messages de ces messieurs qui m'invitaient à venir dans leur chambre. Là, vous vous dites, c'est qui ces gens ? Ils savent pas se tenir. Enfin bon, bref. Évidemment que oui, oui, moi j'ai toujours résisté. Et puis j'ai
non. Ça, donc ça, vous avez subi le sexisme.
Ah mais à un point, oui, bien sûr.
En politique.
En politique et dans la vie professionnelle.
Est-ce que vous avez été surprise, Anne Hidalgo, par l'ampleur du mouvement MeToo, par le nombre vertigineux des femmes qui ont dit avoir subi du harcèlement oui. ou plus ?
Surprise, non, parce que ça me paraît tellement, voilà, ce qui est la réalité. La génération qui est la mienne n'était pas allée jusqu'à dire...
Balancer. Ça vous a gêné, balance ton porc ?
Pas du tout. Je pense que c'était vraiment nécessaire et que c'était courageux.
Il y a plusieurs manières d'être féministe aujourd'hui. Écoutez, deux féministes très différentes.
On est encore dans un système de société qui tourne autour de la figure de l'homme, du père, que ça soit dans les sphères plus des foyers, autant qu'en politique. Hein, je veux dire, c'est très factuel tout ça. On a toujours eu des présidents de la République qui étaient des hommes. Le pouvoir est encore incarné par les hommes. Donc évidemment, tout ce qui tend à venir remettre en question cette mainmise sur les structures de pouvoir et cette mainmise sur les récits tels qu'on peut les faire de l'information, est perçu comme une menace.
Je crains pas une guerre des sexes, je crains le séparatisme. Je crains la méfiance réciproque. J'entends beaucoup de jeunes hommes qui sont maintenant terrorisés, qui savent pas comment faire, quoi dire. Un mot pour vous clouer au pilori. Je n'en peux plus. J'étouffe. Voilà, j'étouffe.
Est-ce que vous aussi vous étouffez parfois, comme Elisabeth Badinter ?
En fait, moi, je m'inscris dans un féminisme plus proche de celui d'Elisabeth Badinter.
Que celui d'Alice Coffin qu'on a entendu avant.
Qui est un féminisme qui se bat pour l'égalité, pas pour la différence.
Mais elle vous heurte aujourd'hui, les jeunes féministes trop militantes ?
Non, 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 elle ne me heurte pas du tout. On a besoin aussi de cette radicalité et du courage qu'elles ont eu à dire « balance-t-on ». Mais... En même temps, je pense qu'il faut garder l'idée que on n'est pas là pour fracturer non plus le féminisme. Moi, je suis pas du tout sur l'idée que c'est dans le droit à la différence qu'on va trouver aussi la place respective des hommes et des femmes. Je suis pour qu'on aille le plus possible vers une indifférenciation des rôles sociaux. Et je pense que c'est dans l'universalisme. Mais l'universalisme ne peut pas être non plus opposé à celles qui mènent des luttes plus radicales, notamment, je pense, aux femmes lesbiennes qui affirment...
C'est le cas d'Alice Coffin.
C'est le cas d'Alice Coffin.
Vous avez lu le génie lesbien ?
J'ai parcouru et je suis intéressée, évidemment, par ce qu'elle dit et ce qu'elle écrit.
Quand Alice Coffin, qui fait partie de votre majorité, crie en plein Conseil de Paris « la honte », alors que vous rendez hommage à votre conseiller culture, Christophe Gérard, qui vient de démissionner parce qu'il est mis en cause pour ses liens avec Gabriel Matzneff et aussi dans une affaire de viol qui sera classée sans suite ensuite. Quand elle crie « la honte, la honte », là, vous n'êtes pas contente.
Non, parce que je pense que c'est pas le lieu. C'est-à-dire, je pense aussi que quand on est un élu de la République, on n'est pas un activiste. Et notamment au moment où on siège, l'activisme c'est important et je le suis aussi à ma façon.
Donc elle est à sa et façon, la radicale.
Oui, mais je pense que dans l'enceinte où nous représentons plus que nous-mêmes, il faut prendre cette dimension de nous représentons plus que nous-mêmes.
Anne Hidalgo, vous êtes née en Espagne, famille modeste, comme beaucoup de familles espagnoles anti-franquistes dans les années 60, votre père décide de fuir l'Espagne vers la France.
Des centaines de milliers de ces travailleurs ont en effet été contraints par les nécessités économiques à quitter leur famille et leur pays pour s'en aller gagner leur pain en terre étrangère. La réponse qui revient toujours lorsqu'on demande à un ouvrier espagnol quelles sont les raisons qui l'ont poussé à émigrer, tient avant tout en un mot, la faim.
Extrait d'un documentaire, Espagne 1960, note sur l'émigration de Jacinto Esteva. Mmh. Vous avez 2 ans, c'est ça,
ouais,
quand vous arrivez en France avec vos parents et votre sœur. Mmh. À ce moment-là, vous vous appelez Anna, pas Anne.
Oui, c'est vrai.
À quel moment Anna est devenue Anne ?
En fait, sans même qu'on me le demande, et assez vite, quand j'arrive à l'école, en fait, nos prénoms sont francisés, sans qu'on nous le demande. Sans que ça me gêne non plus, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi avec mes parents, on parlait espagnol, et avec ma sœur qui a 2 ans de plus que moi, on parlait en français. Donc on était dans un passage d'une langue à l'autre assez naturel, et pour nous l'extérieur c'était la France, avec une volonté farouche d'intégration, hein, et notamment dans l'école républicaine, par l'école républicaine. Donc en fait, j'aime bien avoir ces deux prénoms. Mes amis en Espagne m'appellent Anna et ici Anne. Donc j'aime bien.
Ça vous va ?
Ça me va bien parce que c'est deux parts de mon histoire qui en fait se mélangent très très bien. Parce que assez vite, je me suis dit bon, finalement, c'est quoi ces identités comme ça multiples ? Et pour moi, ça a forgé une sorte d'identité européenne très concrète.
Votre père ? Vous lui devez énormément.
Oui, il était génial.
Vous êtes devenue féministe, vous dites, contre lui, parce qu'il était macho, vous dites.
Ah bah oui, c'était... À la fois, il était, je pense, très moderne et très... Parce que ses filles devaient faire des études et il avait 2 filles. Il n'y avait pas de garçon à la maison, donc avec ma sœur, on s'est toujours dit, d'ailleurs, ça a peut-être été notre chance, parce que du coup, mon père et ma mère voulaient absolument qu'on fasse des études. Et puis, mais après, oui, c'était quand même un Espagnol du sud de l'Espagne, donc il a fallu prendre sa liberté.
Ouais, hein. Vous l'avez conquise.
Ah ouais.
Il n'était pas tellement féministe.
Après, si, parce qu'il a jamais... Là où il était féministe, c'est qu'à aucun moment, il ne nous a dit à ma sœur et à moi, il y aurait des métiers pour les femmes et d'autres pour les hommes, et votre rêve, il faut qu'il soit quand même contraint dans un modèle. Jamais, jamais. Pour lui, il n'y avait rien de trop beau pour se réaliser. Donc, en ça, je pense qu'il était très féministe.
Mon père a toujours voulu nous protéger, ma sœur et moi, des inégalités et du racisme. Toute petite, j'ai pris conscience de l'étiquette fille d'immigrée. Quand j'étais au collège, on a dit à mon père que secrétaire de direction, ce serait déjà bien pour elle.
Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment... D'abord, mon père était quelqu'un de très engagé, de très... il n'avait pas fait d'études, hein, évidemment. Il avait arrêté l'école à 14 ans. Il était autodidacte dans ses domaines, notamment, il était électricien. Mais en même temps, il s'intéressait beaucoup à l'école. Il lisait énormément. À la maison, il y avait beaucoup de journaux. C'était quelqu'un qui était un passionné d'actu, de politique, qui regardait, qui essayait quand même de pouvoir nous accompagner. Il y avait du racisme, oui. Moi,
Vous en avez souffert ?
J'ai vu quand même, à la fois des attitudes sur mes parents, parce que ma maman qui parlait beaucoup moins bien français parce qu'elle ne travaillait pas à l'extérieur, donc...
Vous avez vu les regards ?
J'ai vu les regards, y compris les attitudes extrêmement vexantes, j'ai vu ça, j'ai entendu,
L'école, pour moi, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire et on a plutôt été très bien accompagnés avec ma sœur dans notre scolarité. Enfin, l'institut de CE2 qui dit c'est pas les petites espagnoles qui vont être les premières de la classe, je l'ai entendu, quoi, hein. Mais j'en ai pas nourri quelque chose de... Parce que là, pour le coup, mon père a eu vraiment raison de nous dire c'est pas dans la revanche qu'on construit quoi que ce soit. C'est plutôt dans la recherche de sa liberté. Et donc...
Est-ce que l'aboutissement de cela, Anne Hidalgo, ce serait pas que la fille d'immigrés espagnols d'un milieu modeste soit élue un jour présidente de la République française?
Qu'un jour une femme soit élue présidente de la République française et qu'elle puisse venir d'une condition modeste, voire même de l'immigration, ce serait bien. Après, c'est un sujet qui n'est pas le sujet d'actualité.
Non, c'est pas le sujet d'actualité, mais je vous la pose quand même parce qu'elle est de plus en plus d'actualité. On y arrive là.
En tous les cas, c'est un sujet qui renvoie à l'offre politique qui, et j'ai dit, je prendrai toute ma part. Je pense qu'il faut absolument qu'on laisse ce pays respirer démocratiquement et qu'on ne soit pas contraint par un pré-choix où les trois candidats déjà connus seraient ceux pour lesquels il faudrait absolument voter.
C'est-à-dire
Les trois...
Emmanuel Macron, Marine Le Pen.
Marine Le Pen et Mélenchon, puisque c'est les trois qu'on nous cite en permanence. Donc, je pense qu'il faut laisser le pays respirer. C'est vrai que c'est dans pas très longtemps, mais quand même, il y a le temps de cette respiration.
Vous avez le temps de respirer? C'est-à-dire, vous avez le temps...
En tous les cas, il y a le temps de construire quelque chose. Vous savez, ça peut pas être juste une aventure individuelle.
Non, mais ça peut être une envie. Vous disiez, être maire de Paris, ça fait des années que j'y pense en maquillant le matin, avant de l'être. Vrai. Est-ce qu'en ce moment, vous maquillant le matin, Anne Hidalgo, vous pensez à la présidente de la République, honnêtement, franchement?
Non, je suis pas du tout justement dans cette fabrication-là. En revanche, je pense qu'il faut absolument donner à notre pays un choix qui soit un choix plus large et en ce qui me concerne, de faire en sorte que ce qu'on appelle la sociale écologie, l'humanisme, une approche démocratique apaisée puisse s'exprimer. Voilà.
Vous n'en avez pas très envie en fait?
C'est pas une question d'envie.
C'est aussi une question d'envie parce qu'il faut prendre des coups, hein, une campagne.
C'est pas une question d'envie, c'est une question de pourquoi faire, avec qui et comment. C'est pas une question qui peut se, et ça c'est le drame de cette élection française, parce que c'est très français, c'est qu'on en fait une question d'envie personnelle. C'est juste une question de destin collectif.
Est-ce qu'on peut tout avoir? Une grande carrière, une vie de famille et une vie amoureuse comme les hommes? Ou est-ce qu'il faut faire des sacrifices, forcément?
Moi, je veux pas faire de sacrifices. Donc, j'essaye de tout avoir, quoi.
Vous avez tout eu?
Ah, en tous les cas, je suis heureuse dans ma vie, ça c'est sûr.
Les hommes de ma vie ont eu du mal à accepter ma réussite, dit Christine Lagarde. Est-ce que ça a été votre cas aussi?
Non, vraiment pas.
Tous les hommes de votre vie ont accepté votre ascension?
Oui, non, vraiment.
C'est vrai que vous gonflez un peu votre mari tous les soirs en lui racontant en détail votre journée?
Non, il s'en fout pas. Mais de temps en temps, oui, quand même. Je pense que je le gonfle un peu de temps en temps.
Vous dites que vous êtes une femme potomitan. C'est quoi ça?
Ça c'est mon amie Babette de Rosière qui a dit ça. Donc c'est
un mot antillais.
Un mot antillais pour dire que voilà, elle est puissante, elle est debout, elle est voilà.
Et puis elle gère le foyer, quoi.
Elle gère.
Et les hommes suivent.
Je dirais pas ça parce que j'ai trop de respect quand même aussi pour eux. Puis vous savez, j'ai des fils aussi, hein. Moi, je veux pas qu'ils grandissent dans l'idée qu'ils seraient coupables d'être des garçons, hein. Surtout pas. Et ils le sont pas d'ailleurs. Ils grandissent pas avec cette idée-là. J'ai vraiment envie qu'ils grandissent, en assumant aussi leur humanisme, hein.
On parle souvent de la différence d'âge d'Emmanuel et de Brigitte Macron. Mais vous aussi, vous êtes précurseur dans le... Je savais pas ça. Vous avez 7 ans de plus que votre mari.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça m'a beaucoup travaillé d'ailleurs à l'époque, mais bon, on s'y fait, quoi.
Ouais, l'amour est plus fort.
Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé.
Ça vous travaillait? Vous disiez, est-ce que je vais assumer un homme qui a 7 ans de moins que moi?
Ouais, je me disais quand même, il avait 14 ans quand on avait... Donc c'était, ouais, quand même, je disais...
Et le regard des autres à ce moment-là, ils vous disaient pas, il est pas un peu jeune pour toi ?
Non, parce que en fait, soit par gentillesse, soit je ne sais, voilà, les gens me disent ah bon, vous avez 7 ans d'écart.
Ah oui, c'est de la flatterie, non ?
C'est de la flatterie, voilà.
Prendre de l'âge, vieillir, c'est difficile.
En fait, non. Je pensais que c'était plus difficile que ça, mais on se trouve aussi avec le temps. Hein, je veux dire, le chemin pour se connaître soi-même. Ce qu'on ne veut pas, on l'apprend en fait assez vite. Mais après, ce qu'on veut, c'est plus compliqué.
Les marques du temps, le corps qui change.
Oui, bien sûr, on vieillit, on change. Le visage, le corps n'est plus le même, mais c'est... Souvent, je dis à mes amis, en fait, il vaut mieux fêter ses anniversaires que de pas les fêter, quoi. Mmh. Ça veut dire qu'on est vivant, qu'on est là, et puis qu'il y a plein de choses à faire.
On est belle encore.
Bon, en tous les cas, on se sent beau dans le regard de ceux qui vous aiment, donc c'est ça qui importe.
La chirurgie esthétique, vous y avez déjà
pensé ? À jamais, non, non.
Jamais ?
Ah, mais vraiment jamais.
D'accord, non, non. Vous le ferez jamais ?
Oh non, je trouve tellement dommage, justement, je trouve... après, bon, chacun ses choix, hein, et je veux dire, chacun vit avec son... c'est son intimité, donc je conteste pas les choix de tel ou tel, mais moi, non, non, ça me ferait tellement peur...
Quelques questions de fin, Anne Hidalgo, juste pour terminer, vous répondez spontanément. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ?
Les trois.
Ah non, non, il faut choisir.
Égalité.
Vous êtes un homme pendant 24 heures, vous faites quoi ?
Je sais pas, qu'est-ce que je fais pendant 24 heures ? Ça m'a jamais attiré de vouloir être un homme, donc je serais très embêtée. Je serais très encombrée par cette chose-là.
La Parisienne est-elle une femme puissante ?
Oui, c'est une femme libre qui galère aussi, hein, qui vit plein de vies, qui veut pas choisir entre toutes ses vies, mais qui choisit sa vie avec tout ça et qui de fait est puissante. Ouais.
Gisèle Halimi au Panthéon, vous êtes pour ?
Ah oui, bien sûr. Je l'ai connue, je l'aimais beaucoup.
Carla Bruni ou Brigitte Macron comme première dame ?
Ah, j'aime beaucoup Carla.
Avec Martine Aubry, c'est fini, fini ?
Ah non, pas du tout.
Vous êtes réconciliés ?
Non, non, on a eu, dans une vie d'amitié, il y a des moments où on s'éloigne, mais non, non, très, très bien, très bien. J'aime beaucoup Martine, je lui dois beaucoup.
Vous avez beaucoup menti là pendant une heure avec moi ?
Ah non, surtout pas. En plus, je suis pas à l'aise avec le mensonge, ça se voit assez vite.
Vous êtes une mauvaise menteuse ?
Ah non, je suis nulle.
Très mauvaise menteuse.
Très.
Dernière question, la question Jacques Chancel. Et Dieu dans tout ça ?
Je pense que la spiritualité est importante, très très importante. Je suis plutôt agnostique. De temps en temps, je dis athée. De temps en temps, je dis agnostique. Donc, ça balance encore un peu.
En ce moment, vous êtes quoi ?
Plutôt agnostique. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous unit. Alors, certains l'appellent Dieu. Pour moi, c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'humanisme et de la philosophie. Mais la spiritualité, indispensable si on veut penser au-delà de notre condition humaine.
Vous dites ça alors que résonnent les cloches de je ne sais quelle église parisienne. Merci beaucoup, Anne Hidalgo, de nous avoir accordé cet entretien.
Merci à vous.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. Hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit. de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Sous le ciel de Paris, de l'immense Juliette Gréco. Merci d'avoir écouté Femme puissante. À la préparation, l'excellente Paola Puerari avec Marie-Elisabeth Jacquet et Maud Ventura. À la prise de son, Hélène Langlois. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. Et à la réalisation, la charmante Anna Bui. Bon dimanche aux femmes puissantes et aux autres. Et on se retrouve l'été prochain.